êtes vous-même un des enfants du Plessis.
Exactement.
Ça se passait en quelle année, ces choses-là?
Lorsque j'arrivais à l'orphelinat, en 1939, le 28 de juin 1939,
oui.
J'ai été agressé la première journée que j'ai rentré là-dedans.
Sexuellement?
Oui, sexuellement la nuit. J'ai été agressé la nuit. Les moniteurs couffaient dans le dortoir, à l'autre bout du dortoir. Et puis, c'était après, là, à force d'avoir des plaintes vers la religieuse, les moniteurs, ils les ont transférés de département pour dormir. Ils dormaient dans le passage, puis tout dormir dans le dortoir. Mm-hmm. Mais ça a continué depuis belle pareille, tu sais.
Vous êtes resté en orphelinat de quelle année à quelle année?
De 39, le 28 de juin 39, aller jusqu'en 64. Ah, 66, c'est-à-dire. 66.
Vous avez dû en voir de toutes les couleurs, vous, personnellement?
Ans, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai vu jusqu'à des meurtres.
Ah oui?
Ah, des meurtres.
Là, vous dites ça, n'oubliez pas que vous êtes sur la télévision.
Ah non, ce que j'ai dit, je leur dirai à la cour pareil la même chose, parce que quand j'ai vu les procureurs en question, je leur ai dit d'en face.
Voilà, expliquez-moi donc comment est-ce qu'il pouvait justifier le départ d'un enfant. S'il y avait un Joseph Martin qui était tué, il fallait bien que le dossier de Joseph Martin subsiste.
Ah,
ben oui, alors qu'est-ce qu'il faisait?
Il y en a deux Joseph Martin là-dedans, tu sais.
Un exemple, entre autres, oui.
Un exemple, voyez-vous, là. Exactement. Il y a deux Joseph Martin dans ce dossier-là. Il y en a un né du 7 janvier, puis l'autre c'est du 1er
ça.
Juillet.
Oui, c'est ça. Ici, Joseph Martin, 7 janvier.
Le 7 janvier.
Et vous êtes né quand?
Moi, je suis né le 1er juillet 1933.
Donc, c'était pas vous?
Ben non. C'était pas moi, mais on m'a embarqué dans son dossier.
Pour être capable de justifier le départ d'un des deux.
C'est exact.
À vous regarder, on dirait qu'il vous manque un œil.
Ah oui.
T'as pas un problème?
Ah, mais j'ai un problème. Moi, on me l'a arraché, mon œil, quand j'étais jeune. Alors, finalement, on me l'a crevé avec un canif.
Un accident?
Bon, un accident. Après m'avoir violé, en 1942, le 7 de février, à 7 h du soir.
En 49?
Ben, c'est que le gars m'avait violé, mm-hmm. Et puis en me violant, pour camoufler l'affaire en me violant, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que j'ai tombé gravement malade. J'étais plein de sang, premièrement, on m'a transféré à l'infirmerie, j'étais 8 mois à l'infirmerie.
Mm-hmm.
Mais j'étais aveugle complètement.
Oui.
J'étais complètement aveugle. Faut pas oublier ça, là.
Oui, mais les gens, là... qui vous traitaient à l'hôpital, c'était des médecins, là. C'était plus des moniteurs.
C'était des médecins, c'est correct, mais les médecins...
Ils réagissaient pas devant ça, un enfant qui était musclé.
Les médecins dépendaient des religieuses.
C'était
les religieuses qui payaient les médecins.
Ils se taisaient.
Il n'y avait rien qu'à se fermer la gueule, c'est tout ce qu'il y avait à faire, eux autres.
C'est pas facile de parler d'un dossier aussi explosif, délicat, parce que là, vous parlez des religieuses, ouais. Vous parlez des moniteurs, mais qui est coupable de tout ça derrière ça, là? Il y a un silence collectif qui était établi.
Il y a eu un silence collectif pour une seule raison, c'est que, voyez-vous, là, M. Glenn, c'est qu'au moment qu'il y avait un assaut, la sœur, tout ce qu'elle faisait, c'est de faire soigner l'enfant, puis ferme ta gueule. Endure ce qu'on t'a fait. Point. T'avais pas le droit de parole, premièrement.
Pourquoi ils vous mettaient dans un orphelinat? Puis là, j'ai vu que c'était pas rien que des orphelinats, là, Saint-Jean-de-Dieu, là, c'est ouais. Des centres pour enfants déficients mentaux.
C'est ça. On était classés comme débiles mentales en arrivant là.
Pourquoi?
Moi, j'ai été classé débile mental 2 ans après que cet accident-là est arrivé.
Mais pourquoi qu'ils vous classaient débile mental?
C'est pour pas qu'on soit capable de revenir contre eux autres.
D'une part, puis d'autre
part. C'est le truc, ça.
Je pense aussi que l'allocation donnée par le gouvernement était plus élevée si on disait que c'était pour s'occuper de débiles mentaux que d'enfants normaux.
Exactement.
Alors, ils gagnaient plus d'argent à dire débiles mentaux à tout le monde.
Exactement. Ils faisaient ce qu'ils voulaient avec aussi.
On ne les appelle pas les enfants de Duplessis pour rien. C'est non, pas les non, enfants non. Des écoles chrétiennes comme à Terre-Neuve.
Exactement.
Que la politique était vraiment impliquée à fond dans ça. Là.
La politique, elle était impliquée à fond. C'est que, elle était impliquée, puis c'est oui, puis non. C'est que les enfants ne pouvaient pas écrire au gouvernement. Toutes lettres étaient confisquées. Donc, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Toutes les lettres étaient confisquées.
Vous voulez dire que c'était... Absolument personne ne se doutait de ce qui se passait
là. Personne ne se doutait de ce qui se passait là.
Un peu comme dans les camps de concentration.
C'était...
On dit qu'on ne savait pas ce qui se passait en
M'a dit, comme René Lévesque m'a dit, carrément d'en face, c'était une prison sans barreaux. Vous savez ce que ça veut dire, une prison sans barreaux?
J'ajouterais même un camp de concentration.
C'était un camp de concentration pour des enfants qui ont été condamnés sans passer par la cour.
Mm-hmm.
Vous comprenez?
Des
ces enfants-là, trois quarts de ces enfants-là, ces petites filles-là, sont encore en institution.
Bien, ça les a dérangés, j'imagine.
Bien, quand vous en prenez comme celui-là, Jean-Paul Charbonneau, ici, là, il est en arrière du Mont-Saint-Antoine. J'ai pu retracer où ce que c'est qui était rendu, eux autres. Lui, là, il a été battu. Oh, ben, c'est pas possible.
L'anecdote de celui qui a été lancé à travers une fenêtre, là, c'est...
C'est Wilfrid Racine, je lis son portrait. Quand je lis son portrait, il est ici.
Comptez-moi le.
Wilfrid Racine, il avait été violé. Puis pour essayer à y faire oublier ce qui est arrivé, Wilfrid Racine, ben il est arrivé que.
Ils l'ont pris.
Ils l'ont garoché au travers de quatre vitres. Puis il y a une vitre dans le milieu du cerveau.
Qui est resté.
Attendez une minute, je vais vous le trouver, Wilfrid Racine, là. Je vais vous le trouver là-dedans. Attendez une minute. Wilfrid, il n'est pas dans celui-là, il est dans cette photo-là.
Il est où?
Il est ici, là. Il est là,
Wilfrid
Racine.
Bon. Évidemment, on ne le reconnaîtrait pas aujourd'hui, là, mais il vit toujours avec un
morceau de vitre. Ah, il vit avec une vitre dans le milieu du cerveau.
Ils ne peuvent pas l'enlever, ça, il mourrait.
Ben non, il crèverait, parce que la vitre, en plein milieu du cerveau, la pointe de vitre.
Montrez-nous l'autre photo ici. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des enfants, des filles là-dessus. Là.
Ah oui, il y avait autant de filles que de petits gars.
Ils vivaient le même sort.
Ah, oui, le même sort, les petites filles. Les petites filles, les sœurs en faisaient des lesbiennes avec. Il y en a qui se sont réchappés, ils se sont mariés, mais peu se sont mariés.
Ben oui, peu. Eh bien, moi, je vous souhaite bonne chance dans les procédures judiciaires.
Et seulement qu'il y a une chose, que pour les criminels, je dis bien que ça va prendre de l'argent pour les foutre en dedans, ce monde-là.
Oui.
Parce que j'en ai rencontré un l'année passée, puis il m'a dit carrément en plein visage, j'ai été payé par les sœurs pour vous faire subir ce que j'ai fait. Ben, quand le gars a eu le culot de me dire ça dans la face, là, je l'ai traité joliment d'écœurant. J'ai dit, tu m'as laissé une séquelle, tu as laissé des séquelles à plusieurs enfants. Que s'ils savaient où c'est que tu demeures, toi, je te dis que tu passeras au cash. Parce qu'il y en a qui te cherchent.
Là, on dirait qu'on fait aussi le procès des institutions religieuses. Moi, je vais vous poser une question, Joseph Martin.
Oui.
Si les sœurs ne s'étaient pas occupées de ces enfants-là, mais où est-ce qu'ils auraient abouti?
Oh, mais un instant. Il y avait le service d'aide à l'enfance dans le temps. Ça, il ne faut pas vous oublier ça. Il y avait la curatelle publique qui s'occupait de ça dans ce temps-là.
Mais la curatelle... C'était encore des religieuses qui étaient derrière.
C'était le chanoine content qui était derrière ça.
Mm-hmm.
C'était tous des religieux. Un venait un dans l'autre dans ces affaires-là. Un venait dans l'autre.
Donc, on va se quitter en regardant ces images et ça va nous faire réfléchir en écoutant aussi cette chose-là. Merci beaucoup, M. Joseph Martin.
Enchanté de vous avoir connu, monsieur.
Moi aussi.
Vous m'êtes d'une très grande utilité. Vis-à-vis de l'humanité.
Merci beaucoup, M. Joseph Martin.
Enchanté de vous avoir connu, monsieur.
Moi aussi.
Vous m'êtes d'une très grande utilité. Vis-à-vis de l'humanité.
Des phrases emprisonnées dans des yeux qui s'appellent. Et que pas un baiser ne referme ou ne serre. Jamais tous ces mots-là ne sombrent dans l'oubli. Ils se changent en regrets, en souvenirs transis. Mais les cendres du feu, des mots qu'on n'a pas dit, jamais ne sont vraiment éteintes, refroidies. Elles se consument encore au cœur de nos mémoires. En réchauffant nos nuits d'une lueur d'espoir, comme du temps qui dort au fond du sablier, mais que l'on garde encore pour ne pas l'oublier. La nuit, dans les miroirs, il y a des mots qui s'allument et qui refont parfois la gloire de la fortune, avec tous les regards qu'on n'a pas su saisir. Et les amours fanés qui semblent refleurir. Alors dans les miroirs, il y a des mots qui résonnent comme un destin tout neuf qui ne sert à personne. Et l'on caresse encore les espoirs de bonheur qui ressemblent aux prénoms que l'on connaît par cœur, aux lettres enrubannées que l'on n'a pas reçues. Mais qu'on relit sans toi pourtant, la nuit venue, à tous ces mots d'amour, restés dans l'encrier, mais qu'on n'a plus personne à qui pouvoir crier. Dans le fond des tiroirs, et des larmes qui sèchent, un portrait du passé qui s'écorne ou s'ébrèche, et la vie doucement ferme de ses plis ces chemins qui s'ouvraient et qu'on n'a pas suivis.